En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Personnage, personnalité, caractère, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques, présidée alors par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou un invité extérieur présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Et le lundi 13 octobre 2003, Vladimir Berelovitch, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, présentait une communication sur Pierre Legrand. Nous l'écoutons.
Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, mesdames et messieurs, c'est à la fois un honneur et une gageure de tenter de faire le bilan d'un personnage aussi important que Pierre Legrand, et surtout après que de grandes pleurs et d'un grand souverain qui a perduré tout au long de l'histoire du XVIIIe siècle et qui perdure jusqu'à nos jours. Pourquoi grand souverain? Pourquoi grand caractère? Duclos, dans ses mémoires secrets, nous livre en quelques mots bien sentis le credo de cette tradition à la fois historiographique et littéraire. Ce prince qui s'était créé lui-même travaillait à devenir le créateur de sa nation et il y serait parvenu, ajoute le sceptique Duclos, si une telle entreprise pouvait être l'ouvrage d'un règne. L'image donc d'un créateur de sa nation qui est certainement la façon dont on peut résumer au mieux toute la propagande qui a été développée à partir de la cour de Saint-Pétersbourg en direction de l'Occident et qui fut cultivée par le tsar lui-même, puisque il se fit fabriquer un cachet personnel sur lequel il figurait sous le trait de Pygmalion, sculptant Galatée, qui était la Russie. Cette image-là, dans quelle mesure peut-on y ajouter foi? Comment peut-on l'examiner d'une façon critique? Beaucoup d'ouvrages ont été consacrés au règne de Pierre le Grand et au personnage lui-même. Peut-être un bilan de plus n'est-il pas inutile, bien que cette question soit très difficile à trancher. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que lorsqu'on lit les mémoires de l'époque, que ce soit les témoins à l'étranger, qui sont tous très ambivalents et partagés, ou les quelques témoins russes qui ont laissé quelques traces de leur vie sous le règne de Pierre le Grand, on est frappé, en effet, par un caractère exceptionnel, tout à fait hors du commun, et surtout de ce que je pourrais appeler un effet de génération. À la différence de tous les règnes qui l'ont précédé depuis le début du XVIIe siècle, en Russie, et même de ceux qui l'ont suivi, on peut dire qu'il y a une génération Pierre le Grand, que les proches, qu'ils soient aristocrates, parvenus, simples mécaniciens comme Nartov, qui ont laissé quelques mémoires ou quelques traces de cette époque, font preuve d'une admiration et surtout d'une nostalgie qui ne trompe pas, qui n'est pas de pure propagande, et qui montre que ces gens-là, comme on dit, ont vécu quelque chose. Le caractère tout à fait exceptionnel du tsar, pour poursuivre un petit portrait du personnage de Pierre le Grand, tenait au fait, assez bien résumé également par Duclos et surtout par Saint-Simon, que nous citerons tout à l'heure, par un mélange de grandeur et de simplicité et de liberté, qui faisait que ce personnage pouvait s'encanailler dans des tavernes et, au contraire, tout à fait à l'inverse, faire preuve d'une majesté parfois étonnante et aussi d'exigence non moins surprenante au moment de ses visites. De telle sorte que, par exemple, au cours de son voyage en France en 1717, différents personnages chargés de l'accueillir ne savaient jamais que faire, puisqu'il était totalement imprévisible. Tantôt il était incognito, tantôt il exigeait que tous les honneurs lui soient rendus, et il ne se pliait à aucun cérémonial, mais se vexait si ce cérémonial n'était pas prêt. Les comparaisons entre Pierre le Grand et les héros de l'Antiquité, qui sont légèrement esquissées par Fontenelle dans cette citation et qui ont été développées dans son discours, il le compare notamment à Alexandre le Grand, ce qui était un topos déjà très ancien, puisque Pierre lui-même, très féru de la lecture de Quintecurs et du manuscrit slave traduit Alexandrie, enfin traduit du grec, du latin et du serbe, Alexandrie, Pierre lui-même se comparait volontiers à Alexandre le Grand, surtout après la création de Saint-Pétersbourg, puisque donc il traçait un parallèle. Pierre, ce n'est pas une simple anecdote, ce n'est pas sans doute un hasard si la revue anglaise est parvenue en Russie, mais il y a là quelque chose, un point de comparaison, qui a d'ailleurs, qu'on retrouve aussi dans les homélies de Théophane Prokopovitch, un des plus grands propagandistes et proches de Pierre le Grand, et qui court ensuite, pendant tout le XVIIIe siècle russe, pour s'achever au début du XIXe siècle dans quelques ouvrages d'histoire. Cette comparaison peut nous intéresser, car elle montre à l'évidence le souci que le tsar avait de cultiver sa propre image. C'est sous le règne de Pierre que certains agents, diplomates, agents de toutes sortes, sont chargés, et parfois par contrat, de présenter dans les capitales occidentales une image favorable à la Russie, et en particulier celle de son souverain. Et surtout, elle montre que cette anecdote et cette histoire montrent que le souverain cultivait sa prenante à la fin de son règne, au point d'aligner 29 navires de ligne, c'est le chiffre de 1721, ce qui est le double de la flotte suédoise à la même époque. Et c'est en effet sur mer aussi que la puissance militaire suédoise fut vaincue. Plus important peut-être que cette performance dans la création de la marine et qui fut mise à l'actif de Pierre le Grand tout au long de son règne et depuis, c'est peut-être l'infrastructure elle-même où Pierre a, dans une certaine mesure, innové. Mais là encore, que ce soit dans la politique financière, que ce soit dans la mobilisation industrielle, ou l'existence même d'un certain nombre de manufactures appartenant à l'État, ce n'était pas des choses nouvelles en Russie. Là encore, c'est plutôt l'audace, la rapidité et le radicalisme des mesures qui peuvent frapper, puisqu'il entreprend de construire des manufactures dans l'Oural, dès 1698, c'est-à-dire extrêmement tôt, si on le situe dans son règne, puisque son règne effectif commence en 1694. C'est donc dans une région très peu peuplée, difficilement accessible, où déjà on connaissait l'existence du minerai, la présence du minerai et les possibilités énormes en bois, en forêt. C'est là pourtant qu'il entreprend et que pour finir il réussit la construction de ces manufactures, qui vont pousser plus tard la Russie au premier rang des puissances métallurgiques. Plus impressionnant peut-être, et là cette fois entièrement nouveau, c'est encore une fois du côté de la marine qu'il faut se tourner, c'est l'infrastructure même de l'amirauté, c'est-à-dire du chantier naval, plus tard aussi direction de la marine, qui fut ce qu'on appela à l'époque l'arsenal, qui fut fondé à Saint-Pétersbourg dès 1704. Ce chantier naval, à la fin du règne de Pierre le Grand, employait à peu près un quart de la population de la ville. C'était une puissance à elle toute seule, dirigée par l'amiral Apraxine, qui était donc le grand amiral de la flotte russe. Mais l'organisation interne frappait tous les étrangers par son efficacité et par son rayonnement. En réalité, l'amirauté était le centre de la capitale de Saint-Pétersbourg, le véritable centre. C'est aussi autour de l'amirauté que se groupaient les principales, la main-d'œuvre et les officiers qui y travaillaient, et surtout y donnait le rythme de la ville, le rythme du travail qui était finalement celui que Pierre avait réussi à imposer à sa noblesse, et qui faisait que même les loisirs étaient calculés en fonction de ce rythme du travail, c'était celui de l'amirauté. Plus encore, c'est à l'amirauté que furent introduits des instruments totalement inconnus en Russie, par exemple la scie, puisque tout se faisait à la hache, et qu'on prit les habitudes d'économiser le bois. Il y a eu des décrets de Pierre le Grand interdisant un certain nombre de pratiques qui, bien sûr, dans la tradition russe, étaient source de gaspillage. L'amirauté fournissait aussi des artisans, et les architectes qui venaient travailler dans la ville de Saint-Pétersbourg puisaient dans l'arsenal les spécialistes dont ils avaient besoin pour les charpentes et pour d'autres travaux. Mais c'est sans doute dans le domaine culturel que les innovations de Pierre le Grand furent les plus impressionnantes. Les plus spectaculaires, on les connaît, c'est le changement du calendrier et l'instauration du calendrier julien à partir du 1er janvier 1700. C'est l'introduction des caractères d'imprimerie dits civils, bien qu'ils ne correspondent pas aux caractères d'imprimerie civile occidentaux, mais c'est le nom qu'ils ont pris en russe. C'est enfin l'édification de Saint-Pétersbourg à partir de 1703 et le transfert de la capitale, un transfert tacite puisqu'il n'y a jamais eu de décret, en 1712-1713. La radicalité de cette entreprise ne doit pas nous faire oublier qu'il doit en même temps offrir une façade vis-à-vis des Occidentaux et qui doit être le lieu entièrement neuf, générateur de la civilisation nouvelle. Dans quelle mesure c'est cette mutation culturelle que Pierre le Grand voulut transmettre et à laquelle Pierre le Grand a voulu contraindre ses élites, et notamment la noblesse, dans quelle mesure cette mutation a-t-elle donc réussi ? En somme, Saint-Pétersbourg et les immeubles et les édifices qui étaient construits étaient des pierres chargées d'accueillir des hommes changeant leurs habitudes. Ces différentes pratiques, la cour, les assemblées, introduites par décret en 1718, l'obligation de naviguer sur la Neva à des jours fixes, et toute une série d'autres mesures, les plus connues, bien sûr, avaient commencé avant, c'était l'interdiction du port de la barbe et des habits russes traditionnels, pour la noblesse russe. Dans quelle mesure, donc, cette mutation a-t-elle laissé des traces? C'est là, bien sûr, que ces traces furent très spectaculaires, et il suffit de lire les récits des voyageurs étrangers, il est vrai assez favorable, puisqu'ils venaient de l'Empire germanique, des témoignages, donc, sur la cour de Russie telle que se présentait en 1709 ou 1710, encore à Moscou, et ce qu'il trouve vers 1723 ou 1724. En embellissant un peu les choses, il trouve une cour à l'occidentale, du moins dans ses marques extérieures, il se croirait en Allemagne. Plus difficile fut l'implantation, encore une fois, des infrastructures chargées de cette mutation. Pierre le Grand importe, il importe énormément, il importe des hommes, il importe des appareils, il importe beaucoup de livres et il importe aussi des institutions, puisque en 1716, sur commande expresse du tsar, son agent à Paris, Jean Lefort, neveu de François Lefort, plus célèbre que lui, et favori du tsar, est chargé de recruter tout un certain nombre d'artisans, et en particulier des tapissiers de haute et de basse lisse, recrutés à la manufacture des Gobelins, et chargés de mettre sur pied à Saint-Pétersbourg une manufacture de tapisserie. Si on suit à présent l'histoire de cette tapisserie, une des techniques les plus sophistiquées et les plus difficiles de l'époque à transplanter, on peut constater que cette tapisserie est morte-née dans les années qui suivent, qu'elle reprend vie à la fin du règne, à la toute fin du règne, en 1725, pour connaître un certain nombre de vicissitudes. Beaucoup de tapissiers français s'en vont, mais il en demeure deux, Béagle, père et fils, et qui, en 1756, cette fois c'est le fils, fait venir de nouveaux tapissiers de France, et c'est à partir du règne de Catherine II que cette manufacture commence réellement à produire des ouvrages de qualité. Il aura fallu donc environ deux générations d'incroyable insouciance, et ce déni complet de toutes les traditions qui reposaient, qui étaient derrière les produits qu'il achetait, faisait que, aussi bien, il pouvait commettre beaucoup d'erreurs, mais en même temps, son opiniâtreté extraordinaire a conduit le tsar comme ses lieutenants et enfin l'élite russe, notamment l'aristocratie, à se repérer dans ce monde culturel occidental et, pour finir, à devenir à peu près des égaux, dans une certaine mesure, de leurs homologues occidentaux. À chaque fois que le tsar embauchait un spécialiste étranger d'un certain niveau, les contrats qui étaient faits d'un seul type, on peut en trouver une trentaine au moins dans les minutiers des archives nationales, comportaient un point très important par lequel le maître artisan s'engageait à prendre à son service les personnes, toutes les personnes qui écrivaient que le tsar Pierre Ier voulait contraindre ses sujets à être libres, une formule extrêmement forte et paradoxale, mais qu'on peut trouver déjà à l'époque, notamment sous la plume de voyageurs occidentaux qui éprouvaient un certain scepticisme à l'égard des entreprises de Pierre le Grand. Eh bien, donc, ce paradoxe tient évidemment aux méthodes du tsar, à son caractère résolument despotique, lui aussi noté par tous les contemporains, même Fontenelle, qui parle de son pouvoir despotique, mais c'est tout de suite, aussitôt, pour ajouter que cette autorité despotique n'est rien à côté du droit d'exiger de ses sujets, qui est d'autant plus fort, écrit Fontenelle, que lui-même partageait les tâches et les travaux de ses sujets, ce qui était aussi un trait remarqué par les Occidentaux. Par exemple, à chaque fois qu'il y avait un incendie à Saint-Pétersbourg, Pierre se précipitait le premier, s'il était sur place, avec une hache pour travailler à éteindre le feu. Ce despotisme, donc, se doublait paradoxalement avec une véritable volonté de liberté, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Despotisme total. Pierre usait avec ses sujets comme avec des matériaux, comme avec ces mêmes pierres dont il avait voulu drainer les arrivages vers Saint-Pétersbourg. Aucun souverain depuis Ivan le Terrible en Russie, et je ne crois pas qu'on puisse trouver des exemples dans les monarchies occidentales des temps modernes, ne se serait permis de prélever des enfants dans les familles de la haute aristocratie pour les envoyer faire des études de marine, pratiquement comme simple matelot. C'était une chose difficilement pensable. On imagine les mécontentements que cela souleva. C'est quelque chose que Pierre s'est permise. Aucun souverain avant lui n'avait essayé d'attenter aux coutumes de l'héritage, ce qu'il a fait avec un échec total, d'ailleurs, ce fut un de ses grands échecs de la carrière. Aucun souverain n'aurait imaginé transporter la capitale de son empire non seulement à Saint-Pétersbourg, mais sur une île, l'actuelle île de Kronstadt, située à une quarantaine de kilomètres en pleine mer, dans le golfe de Finlande. C'est une entreprise qui l'a poussé assez loin, mais qui avorta. Et pourtant, ce despotisme s'accompagnait, comme on l'a souvent remarqué, d'une véritable volonté de liberté. Et c'est ici que j'aimerais citer la fameuse phrase de Saint-Simon dans ses mémoires. Ce monarque se fit admirer par son extrême curiosité, toujours tendante à ses vues de gouvernement, de commerce, d'instruction, de police. Je passe. Tout montrait en lui la vaste étendue de ses lumières et quelque chose de continuellement conséquent. Et plus loin, le désir de voir à son aise, l'importunité d'être en spectacle, l'habitude d'une liberté au-dessus de tout, lui faisait préférer les carrosses, etc. Eh bien, cette idée d'une liberté au-dessus de tout, je risquerais l'idée, avec ses côtés despotiques, sanguinaires, et aussi cette totale imprévisibilité, cette liberté, c'est peut-être, malgré tout, le succès des réformes de Pierre le Grand tiendrait malgré tout à ce caractère hors du commun.
Je vous remercie.
C'était Vladimir Berelovitch, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 13 octobre 2003. Vladimir Berelovitch présentait une communication intitulée « Pierre le Grand ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte et ceux des autres communications d'ailleurs sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, dont voici l'adresse www.asmp.fr. Vous pouvez également les écouter quotidiennement sur Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.